Victor Marguerite, Ténèbres. Le docteur Desfeuilles, qui allait et venait dans la pénombre de salon clos, s'arrêta court. Les sanglots de Madame Lortal redoublaient son agitation. Il se pencha vers la jeune femme abattue dans les coussins au coin du canapé. « Si vous saviez, vous saviez !» murmura-t-il. Elle leva son visage bouleversé, tamponna ses yeux rougis. Elle mordait, pour étouffer les soupirs qui la soulevaient toutes, son fin mouchoir trempé de larmes. Et devant cette face désespérée qui criait pitié, secours, le docteur, debout, demeurait muet, immobile. Que dire qui ne trahit son hésitation ? De quel remède était à cette misère sa sympathie attristée ? Oui, reprit Madame Lortal, je sais, je sais. Il y a des mois que je sais. Oh, d'abord, au commencement de notre mariage, avant la naissance de Georgette et d'André, je ne me doutais pas, je n'ai rien deviné. Il y a depuis 3 ans, ah, c'est affreux, vous ne soupçonnez pas quelle vie, quel supplice. Car je l'aime, c'est un brave homme, au fond, il m'aime aussi, il aime ses enfants. Personne ne se doute, personne, pas même ma sœur. Elle parlait dans la fièvre d'une voix saccadée, les mains à ses genoux, en pétrissant son mouchoir à doigts nerveux. Soudain, elle s'interrompit, jeta un regard craintif vers la fenêtre aux persiennes fermées. On avait marché dans la rue. Le silence pesa, lourd, emplit la pièce fraîche. Ils écoutèrent le pas décroître sur le pavé sonore dans la rue herbeuse. Ce fut comme si toute la petite ville, engourdie dans le jour aux terres rides, se levait du coup avec ses curiosités tapies derrière l'ombre des volets, ses malveillances à l'affût. Le bruit s'éloignait, cessait d'être perceptible. La rue s'effaça avec ses maisons blanches et ses jardins, tout le petit parquet désert. La petite ville cessa d'être. Dans le salon où un vol de mouches bourdonnait seul, du lustre emmailloté au fauteuil couvert de lousse, il n'y avait plus 2 êtres suspendus au guet, situés, ligotés par leurs propres existences, l'heure et le milieu. Ce n'était plus le docteur Desfeuilles de Montargis et Madame Lortal, femme de Georges Lortal, professeur en congé, qui se regardaient face à face. C'était toute la douleur et l'impuissance humaine. Le docteur se pencha vers la jeune femme, lui prit, lui tapota les mains. « Je suis heureux, dit-il, que vous ayez eu confiance, que vous m'ayez parlé la première. Moi qui pensais vous apprendre, hein, qui arrivais le cœur serré, l'âme étreinte de la révélation que je devais vous faire. D'abord, sachant combien votre sœur vous aime, j'avais songé à sonder à mot couvert Madame de La Faye, mais non, ce secret n'est qu'à vous. Et à moi. Oui, voilà 8 jours que je balançais. Enfin, aujourd'hui, comme je n'aurais plus à revenir pour Georgette, j'avais pris mon parti. Je m'étais dit, oh, je l'avertirais. Cruelle alternative. Parler, c'était vous frapper en pleine sécurité, croyais-je, en plein bonheur. Me taire, c'était vous exposer aux pires complications. Que sais-je ? Il baissa la voix, ajouta « à la mort ». Elle se leva, se jeta comme pour implorer protection vers le docteur. Tant qu'elle avait contenu, refoulé au profond d'elle la terrible certitude, elle avait été plus forte, elle avait trouvé l'énergie de lutter. À présent, de sentir qu'un autre partageait son angoisse, savait, elle mesurait toute l'étendue de son malheur. Elle saisissait toute l'imminence du danger. Comment avait-elle pu vivre si longtemps de la sorte, rester sous cette menace perpétuellement suspendue ? Elle balbutia. « Ah, docteur, vous qui m'avez connu enfant, Vous qui êtes un vieil ami de la famille, sauvez-nous, sauvez-moi. Que faut-il faire? Je suis perdu. Sur la pente mystérieuse et fatale. Monsieur Desfeuilles s'absorba dans un bref silence. Machinalement, il passa sa main sur la rondeur luisante de son crâne, comme pour y ramener une mèche depuis longtemps absente. C'était chez lui le signe de la réflexion. Bas sur pattes, avec une figure camuse aux favoris blancs, un grand air de douceur et de bonté, il consultait par moments la jeune femme, à bref regard, de ses yeux bleus, très pâles et clairvoyants. « Ma chère enfant, dit-il, enfin, soyez franche, il faut que je connaisse le fond de votre cœur. Dans de telles conjonctures où la vie est en jeu, la vôtre et tout l'avenir de votre mari et de vos enfants, on ne doit pas se leurrer de mots. Vous ne pouvez pas continuer à mener une existence aussi périlleuse. La... comment dirais-je... la hantise de M. Lortal est telle qu'une séparation immédiate s'impose. Les tentations qu'il éprouve et dont il m'a fait, voilà 2 mois, le triste aveu, ont augmenté de fréquence et d'intensité. Je juge imprudente une plus longue cohabitation sous le même toit, dans la même chambre. Ce qui a pu naître pendant des années, puisque vous me dites qu'il y a 3 ans que votre attention est éveillée, ce qui a pu n'être d'abord qu'un penchant maladif, qu'un commencement de manie inoffensive, une demi-folie, disons le mot, est aujourd'hui de la démence caractérisée. » Madame Lortal, épouvantée, s'écria « Oh non, docteur, non, ne dites pas cela, je vous en prie. » Elle se révoltait maintenant contre l'évidence, abusée par ce qui survivait en elle d'amour. Illusionné par sa tendre charité féminine. Il guérira, j'en suis sûr. Mais nous séparer pourquoi? Seul, je puis le soigner, le préserver. Je saurais détourner l'idée fatale. Ma présence est nécessaire pour remédier au mal que ma présence cause. Monsieur Desfeuilles hocha sévèrement la tête. Votre présence... Mais elle active, elle précipite sa frénésie morbide. Et en même temps, il admirait ce prodigieux dévouement, cet entier sacrifice d'un être qui avait tout donné de lui-même, était prêt à donner le peu qui lui restait, sa vie, pour sauver l'existence de celui qu'elle aimait encore, malgré tout. Sublime immolation d'une femme, ou plus simplement égoïsme aveugle de l'amour. « Voyons, poursuivit M. Desfeuilles, ne venez-vous pas de me le dire? Hier, dans votre lit, lorsqu'après cette effrayante lutte intérieure, vous aviez enfin, certaine qui venait de s'endormir, fermé les yeux vous-même, vous vous êtes senti brusquement prise à la gorge par 2 mains, tâtonnant dans la torpeur, l'imprudent oubli de votre premier sommeil. « Oui !» avoua Madame Lortal d'une voix étranglée, comme si elle éprouvait encore là, au gosier, la pesée des mains assassines. « Oui, c'est vrai. Mais ce geste inconscient, qu'hier ont ébauché les mains qui vous sont chères, elles le renouvelleront demain. Une force que ni votre mari ni vous ne pouvez maîtriser, le pousse et l'emporte. Vous y avez échappé, non pas une, mais 100 fois déjà, par miracle. » « Ne tentez pas le destin davantage. » « Oh, oh, oh !» sanglota tout d'un coup Madame Lortal, suffoquée par une crise de larmes. « Est-ce possible? Mais comment une telle horreur est-elle possible ?» Et comme si elle eût voulu, en cachant sa douleur, se cacher à elle-même tout le drame de son foyer, elle se réfugia dans l'embrasure de la fenêtre, enfonça dans l'angle du mur et des rideaux sa taille fine et ronde, sa tête ployée sous le chignon soyeux, tout son corps charmant qu'agitait par intervalles convulsivement de courts frissons. Le docteur Desfeuilles ne tenta point de la consoler. Les crises de désespoir à ce paroxysme s'usent vite. La détente allait venir. Et il reprit silencieusement son va-et-vient, méditant. L'étrange folie de M. Lortal, cet impulsif désir, ce furieux besoin d'étranglement qui à certaines heures naissait en lui, l'élançait au cou blanc de sa femme en pleine paix de ménage, en plein bonheur intime. Le docteur Desfeuilles n'y pouvait penser sans une profonde mélancolie. Les hésitations du docteur Desfeuilles. Certes, dans sa longue carrière de médecin, il avait côtoyé bien des misères, surpris quantité de déconcertants, d'incroyables secrets, si fertiles, si infinie est la variété des tares dont l'espèce humaine est affligée. Mais rarement il lui avait été donné d'examiner un aussi curieux cas de ces lésions du cerveau, de ces invisibles rongeuses, qui d'un homme aimable, estimé, semblant à tous bon fonctionnaire, excellent époux, père dévoué, et l'étant de surcroît, font petit à petit un véritable possédé, mûr pour le cabanon. Demi-fou, dont le monde est plein, sans qu'on s'en doute, et qui un beau jour, sous la poussée héréditaire, le ressort de la mystérieuse force ennemie, s'avère de complet dément. Assassin, M. Lortal pouvait l'être aujourd'hui, demain. Ce criminel en puissance, irresponsable pourtant, et qui d'ailleurs pouvait aussi ne jamais réaliser l'acte suprême, la décisive folie, mais fallait-il le laisser maître de le faire? Pour mieux dire, cet esclave d'énergies obscures, toute puissante maîtresse de son être, devait-on lui laisser la possibilité de nuire, d'être sa première victime, tout en faisant d'autres? Non! Tranchait la conscience du docteur Desfeuilles. Non, il y a un intérêt supérieur. Sans remords, je dois mettre fin à ce bonheur de façade. Il a beau dissimuler encore les lézardes tragiques, elles sont là. La ruine menace. En touchant à ses existences, à la tranquillité mensongère de cette famille, je ne compromets que la surface, je sauve le fond. Mon devoir est tracé. Dos tourné, Madame Lortal, contre la fenêtre, s'enfonçait toujours dans le gouffre de son chagrin. Le docteur toussota pour l'avertir. « Courage, madame, fit-il, tout espoir n'est pas perdu. Nous le guérirons peut-être. » Elle sortit de son mutisme, montra sa face ravagée. « Promettez-moi d'être raisonnable, insista le docteur, d'être viril pour deux. » Je parlerai à votre mari, je lui ferai comprendre. Elle sursauta. Oh, vous n'avez pas entendu? C'est lui qui rentre. Il prêta l'oreille. Non, rien. Oh, j'avais cru qu'on refermait la porte d'entrée. Le docteur Desfeuilles montra la fenêtre. Vous auriez perçu le bruit d'un pas. On ne peut traverser la rue sans qu'on le sache. Ils se turent. De nouveau, la petite ville, avec son décor familier de maisons et de visages, tout Montargis, engourdi de chaleur, se leva, avec ses promenades et ses berges vides sous le soleil, son peuple d'inimitié, d'indifférence, de curiosité, de sympathie guettant derrière les murs toute l'invincible, harcelante tyrannie de la province. Madame Lortal eut un mouvement de crainte. Oh, « Quand ils sauront ?»« Mais ils ne sauront pas, ma chère enfant. On peut donner à une séparation momentanée les motifs les plus plausibles, les raisons les plus naturelles. »«
Mais lesquelles ?»«
Bon, tenez par exemple que le congé de M. Lortal a pris fin, qu'il ait nommé un poste lointain, vous ne pouvez le rejoindre de suite. » Pendant ce temps, votre mari voyagera. Il était venu se reposer à Montargis, dans cette petite propriété de votre enfance, soigner cette neurasthénie qui, évidemment, était le début de son mal. L'inaction lui a été fatale. Le remède a empiré les choses. Il faut user d'un autre, et sans retard. Un coup d'œil sur le passé. Madame Lortal promena ses regards douloureux sur ces murs où elle avait été si heureuse, petite, quand elle était l'enfant blonde dont le portrait lui riait en face d'elle dans ce cadre doré. Alors, son père et sa mère vivaient. Comme elle était gaie, insouciante, dans ce nid tiède et vert, cette douce petite maison de son enfance, une déchirante pensée la traversa. Son fils, sa fille, c'était André, Georgette, qui la regardait à travers la riante image. Oui, ce portrait, c'était celui d'André, celui de Georgette. Son fils, sa fille, les enfants de Georges. En songeant tout ce mariage, ce que ce mariage avait apporté dans sa vie, songeant à cette transmission d'instincts redoutables, d'ataviques fatalités, que charriaient d'avance de leur sang, que toutes les alliances charrient, elle se mit à trembler au souvenir de ces rapides fiançailles, de cette union voulue par elle, décidée, conclue si vite. Et pourtant, elle ne regrettait rien. Elle l'avait tant aimé, elle l'aimait tant encore. Ah, murmura-t-elle, quelle fatalité! Grave, le docteur Defeuille pénétrait sa pensée. Comme elle payait, expiait durement la légèreté avec laquelle autrefois son mariage avait été bâclé. Que de lourdes responsabilités les parents assument en se souciant si peu des antécédents de famille, des conditions de santé. Dire que cet acte, le plus grave d'une vie, puisque de lui dépendent de la suite entière de la vie, la continuation de l'espèce, on n'y voit le plus souvent qu'une association de convenance, un simple attelage d'intérêts. On ne se soucie que d'apparence, on néglige l'essentiel. Un bruit de pas, puis brusque un coup de timbre. « Ah, cette fois ?» dit Madame Lortal. Précipitamment, elle poussa M. Defeuille vers la porte. « Nous en causerons, docteur, quand il ne sera pas là. Oui, oui, je ferai ce que vous voudrez, je vous le promets. » « Vite, 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 sortez par là. Qui ne nous voit pas ensemble, ne croit pas que je vous ai parlé. Dites que vous ne m'avez pas vu, que vous descendez à l'instant de chez Georgette. Il ne faut pas qu'il se doute. » Elle refermait le battant, gagnait par une porte intérieure l'escalier de service, puis sa chambre où en hâte, elle se mouillait les yeux d'eau fraîche, calmait ses pommettes rouges d'une fleur de poudre de riz. Là, elle allait pouvoir descendre. Un bruit de voix joyeuse lui parvenait d'en bas. Quel contraste avec ce cauchemar! Le docteur, au détour du couloir, s'était cogné à M. Lortal et à Mme de La Faye. Grand, corpulent, le visage haut en couleur sous la barbe rousse, M. Lortal s'empressait autour de sa belle-sœur. La jeune veuve était de même taille que Madame Lortal, et de si ressemblant visage, malgré ses 4 ans d'aînesse, qu'à la voir ainsi surgir, fine sous ses cheveux châtains, le docteur s'émerveilla. Rien d'étonnant, décidément, à ce qu'on prit si souvent les deux sœurs l'une pour l'autre. Lui-même, s'il ne venait pas de quitter Madame Lortal, il dut brusquer ses hommages pour répondre au père qui affectueusement s'enquêtait. « Alors, Georgette, oh, ce n'est plus rien, garantit M. Desferreux, rien du tout. »« Ah, fit M. Lortal, tant mieux. Merci, docteur. » Et les yeux intelligents s'éclairèrent dans la bonne figure assurée. « Oh, qui croirait jamais ?» pensa M. Desfeuilles. Luce ne t'endort jamais la première. Le soir même du jour où Madame Lortal avait avec le docteur cette conversation, une troupe de passage jouait Carmen au théâtre de Montargis. Les Lortal y devaient aller avec Madame de La Faye, qu'ils retrouveraient dans la loge du procureur de la République. Ils dînaient plutôt que de coutume sur la terrasse au bord du Loing. Dans la tiède lumière du crépuscule, les tilleuls répandaient leur odeur douce. Une danse d'éphémère tournait au-dessus de l'eau dorée. Il y avait si peu de courant dans ce bras mort qui semblait immobile, un morceau de ciel rose. Tapageurs, André et Georgette, 4 et 3 ans, tournaient autour de la table en attendant qu'on les couchât. C'était l'heure propice du dessert. La petite, un diablotin bouclé, grimpait aux jambes de son père, tandis qu'André, perché sur la chaise de Madame Lortal, lui caressait doucement le cou de ses menottes câlines. Madame Lortal était habillée déjà pour le théâtre d'une jolie robe de mousseline au corsage échancré en carré à la naissance des épaules. Muette, sous la caresse des mains enfantines, elle se laissait aller à l'apaisement du soir, à une détente. Elle contemplait la ville s'étendre, la vie s'agiter de l'autre côté de l'eau. Des promeneurs aux vêtements clairs croisaient tranquillement le long de la berge. Elle était reprise au perpétuel mirage, à ce conseil d'être heureux, qui, certes un soir d'été, semble sortir des choses. Elle ne voyait pas l'étrange fulgurant regard dont M. Lortal suivait le geste innocent de son fils, les menottes hâlées tranchant sur la blancheur du cou maternel, qu'elles frôlaient, qu'elles enveloppaient. L'obsession fut telle que M. Lortal porta les mains à son front comme pour la chasser, n'y tenant plus. Il se leva d'un mouvement si brusque que la table recula. Georgette, désarçonnée, roulait à terre en hurlant. « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» s'écria Madame Lortal. Elle sursautait en émoi. « Rien, dit M. Lortal, j'ai reculé ma chaise. La petite s'est cognée, elle a eu peur. » Mais sa voix tremblait, changée. André, au cri de sa sœur, mêlait de bruyants rires, dont il forçait les éclats par jeu. « Oh, ces enfants sont d'une nervosité. Tais-toi, André, ou je te claque !» Et M. Lortal déjà levait le bras. Mais il se ressaisit, le visage crispé, subitement, d'une telle expression de douleur que sa femme lâchait Georgette, courait à lui. « Mais qu'as-tu ? Rien, rien. » La femme de chambre à ce moment parut. « Couchez les enfants, Mariette !» Elle les renvoyait, consolée d'une table familière, d'un baiser, revenait à son mari. M. Lortal, appuyé contre la balustrade, se tenait la tête à deux mains. « Georges, tu souffres ? » demanda-t-elle. Elle se pencha vers le visage sombre, interrogea les yeux fuyants. La vision mauvaise s'était dissipée. Une impression de douleur et de trouble persistait seule. Il secoua la tête, biaisa. « Oh, une migraine intense tout d'un coup, un cercle de feu aux tempes !» Bien qu'il fût certain qu'elle sût, jamais même depuis qu'il s'était confié au docteur des feuilles, M. Lortal n'avait eu l'idée de se confesser à sa femme. Que ce prurite sinistre demeura enfoui, cauchemar monstrueux dans l'ombre la plus secrète de lui-même. Rien que de formuler cette horreur, d'avouer l'involontaire, harcelante pensée, il eut craint de lui donner corps, de ne pouvoir plus s'arrêter dorénavant sur la pente irrésistible de l'acte. Pourtant, il connaissait assez sa femme pour être sûr qu'une telle confiance eût éveillé chez elle plus de pitié encore. La tristesse et la crainte où manifestement elle vivait, tout en le soignant comme un malade, avait-elle en rien diminué sa tendresse? Il sentait bien que non, et en éprouvait une humiliation. Car nul doute n'était possible, elle savait qui l'avait instruite. M. Lortal soupçonnait moins la divination de l'amour et cette seconde vue de l'intuition féminine que ses propres imprudences. L'histoire d'un meurtre inexplicable contait un jour, avec trop de détails, un entrain complaisant, des regards surpris où le dessous de l'âme se livre. Et c'est beau, prononcé naguère, cet avis arraché à sa conscience. Luce, ne t'endors jamais la première. Sous la pressante question des beaux yeux inquiets, M. Lortal se détourna. Un insurmontable dégoût le prenait de lui, d'elle, des petits, de la vie. Vivre avec cette tare que depuis des années il sentait en lui grandir. Vivre en traînant ce boulet, à quoi bon? Terreur de se sentir un homme pareil aux autres, d'avoir été, d'être intelligent, affectueux, travailleur, et de sentir soudain un être différent surgir en soi, un double dont l'instinct sanguinaire vous balaie en rafale, brise la volonté, disperse l'esprit, le cœur. Monsieur Lortal, à ces minutes-là, souffrait d'un déchirement sans nom. Il lui semblait que ses tempes craquaient sous une pression brûlante. Il n'était plus alors qu'un seul souhait, ne plus penser, ne plus sentir, sombrer dans un répit d'inconscience, une trêve d'oubli. « Ça ne va pas, » dit-il tristement, « la grande crise. » Autrefois, quand les ravages étaient moindres et plus espacés, il s'évadait à quelque heure qu'il fût. Il marchait longtemps dans la campagne, domptait la bête. À présent, il n'y avait plus qu'un remède, se coucher dans le noir, absorber à dose d'assommoir un suporifique puissant qui le prostrait inerte, l'écrasait jusqu'à la crise suivante. « Je monte, » dit-il. Compatissante et sans rien demander qui pût le meurtrir encore, elle s'empressait. « Attends, je monte avec toi. Je vais envoyer un mot à Berthe. » « Madame de la Faille, Carmen, oh, il s'en moquait bien. Il n'avait qu'une idée, s'étendre, voler fermé, rideau clos. Ne plus penser, ne plus sentir. » Madame Lortal, dans la chambre, rangeait prestement chapeaux et manteaux, préparait sur le lit, faisait la couverture. La lettre griffonnée en hâte. « Laissez la porte des enfants ouverte, Mariette. » Et portez cela chez Madame de la Faille, tout de suite avant de dîner. Le drap tiré jusqu'au menton de Georges, la cuillère de Bromidia. Non, il ne reste qu'une. Est-ce la peine que j'envoie chercher une autre flacon? Non, non, ça suffira. Les volets fermés doucement, les rideaux clos, sans bruit, là. Elle s'asseyait enfin au chevet silencieux. L'avenir est noir. On distinguait, tout confusément encore dans la pénombre, M. Lortal. Les paupières baissées respiraient d'un souffle inégal. Ardemment, elle l'écoutait, fixait la face douloureuse. Elle cherchait à percevoir, à travers le masque aux traits durs, l'idée fugace, le secret d'énigme. L'obscurité, peu à peu, s'était faite. Elle avait cessé de voir souffrir le cher visage. À présent, il reposait sous l'action du stupéfiant. Sommeil léger, souvent coupé d'un mouvement, d'un soupir. Mais enfin, relais d'une heure, halte de nuit, sur la route de précipices et de ténèbres. Elle se leva, légère, accouda sa rêverie à la fenêtre, contre les lamelles fraîches des volets. La paix nocturne s'étendait sur la ville où tout bruit s'était tu. Seul, par instant, un refrain de cuivre bouffait de quelque lointain café-concert. Les étoiles scintillaient, très pures, sur un ciel de velours bleu sombre. La morne journée se déroula dans sa mémoire. L'aveu fait au docteur et le conseil d'une séparation auquel la scène de tout à l'heure donnait une force nouvelle, un poids inattendu. Oui, pour les petits, elle y songeait avant de songer à elle-même, pour la sécurité de leur vie, il faudrait en venir là. Demain matin, elle parlerait à Georges, aussi bien après cette crise plus violente, elle le devinait, que toutes les autres, il fallait, il était temps. Elle alla embrasser André et Georgette, les mignons, comme ils dormaient bien. Puis, la gorge sèche, le cœur battant, elle se déshabillait, s'étendait près du compagnon de sa vie. Elle allongea le bras, toucha la main moite, le doigt que cerclait l'alliance d'or. Ah! Le mystère, l'effrayant mystère où la pauvre humanité se débat. Dire qu'ils étaient mari et femme. Dire qu'ils avaient ensemble créé d'autres existences. Qu'ils se comprenaient, qu'ils s'aimaient. Et tout cela, qui était du bonheur, qui aurait pu n'être que du bonheur, c'était un supplice sans égal, une insoutenable torture. Et le monde qui les croyait heureux, leurs amis les citaient en ménage modèle. Malgré ce bruit absurde qui avait couru à Montargis l'autre année, Georges, amoureux de Berthe, ayant une intrigue, mais allez donc empêcher les potins de petite ville. Que dirait-on quand ils se sépareraient? De tout son être, elle maudissait la fatalité, cette inexplicable maladie. Mais d'où venait-elle, l'invisible fêlure par où tout fuyait? L'âme de cet homme instruit, tendre et bon, le présent enviable, l'avenir pire. Mais d'où venait-elle, de quel lointain de la race, de quelles anomalies de la nature, cette empreinte funèbre, cette indélébile marque? Ah, si l'on pouvait prévoir, si avant de la marier, ses parents s'étaient renseignés, si elle avait su. Mais tout, petit à petit, s'effaça. Elle glissait à son tour, au dissolvant, au bienfaisant sommeil. Une, deux heures passèrent. La demie sonna au cartel du mur. Timbre grêle, imperceptible son, qui suffisait pourtant à tirer de la torpeur à demi somnolente, à demi éveillée où il gisait, le dormeur là. Un cauchemar, les yeux ouverts. Où était-il? En quel abîme d'ombre, de quelle durée sans fin se dégageait-il? Monsieur Lortal écouta l'onde faible du son décroître, s'évanouir. La demi, mais de quelle heure? Les tourbillons qu'elle avait en lui, en achevant de se dissiper l'action insuffisante du soporifique, le laissèrent retomber à plat. Il eut une impression de nausée, puis soudain une lucidité affreuse. Elle était là, près de lui, si près qu'il n'avait qu'à bouger le petit doigt. Son souffle paisible soulevait la poitrine ronde, son cou s'offrait dans les dentelles lâches de la chemise. La hantise fut si forte qu'il vit rouge, perçut à ses ongles qu'il crispait sur sa propre chair la sensation délicieuse. Serré, serré encore, enfoncé dans la peau douce, broyé des muscles, des os. Il crut entendre le cri, si aigu que sa vraie conscience s'effara, dans l'hallucinante volupté de son double. Il se reprenait d'un coup, dominait l'obsédante force. L'autre Lortal, l'ancien, s'aperçut, se jugea. Une fatigue infinie rompit ses membres. Une vague amère de tristesse le souleva, le roula. Son âme en lui s'étendait morne comme un champ de bataille où s'observent les instincts en lutte. En éclair, sa vie défila. Son enfance souffreteuse, abandonnée dans l'internat d'un collège poitevin, la mort mystérieuse de son père, retrouvée noyée dans la Creuse, ses vacances de beau-fils maltraitées, sournois dans la nouvelle famille où sa mère s'était remariée, ce goût de la cruauté qui le faisait, jeune homme, s'attarder à des supplices de bêtes, des rêveries compliquées et sauvages. Son adolescence, enfin, où il s'ouvrait à l'intelligence, au travail, au plaisir de vivre, comme si un autre naissait en lui, qui effaçait, redressait le mauvais sillon. ses examens brillants, son mariage. Et puis, à la suite d'un érésipèle, la lente, impérieuse reprise de l'autre moi, celui que lui avait transmis sa race dégénérée, le grand-père Lortal, capitaine, mort alcoolique, et le père dont la raison, Monsieur Lortal, à ce souvenir, se sentit de nouveau vaciller. Un vent de rage l'assaillit, qui courbait et éteignait la frêle petite lumière intérieure. Son énergie, qu'il essayait en vain de bander, fléchissait, fondait. La brute héréditaire l'emplissait, le chassait de lui-même. Il sentait à ses doigts une démangeaison impérieuse. L'inéluctable impulsion le mit debout. 11 heures lentement sonnèrent. Il arrêta machinalement ses mains près de s'abattre sur le cou blanc et satiné que le rythme de respiration gonflait comme une neige tiède de colombe. Et en même temps, le souvenir de ses enfants, l'image d'André et de Georgette le traversèrent. Hagard, trébuchant, il s'éloigna du lit, s'habilla en hâte. Tête nue, il s'élançait, franchissait l'escalier, 4 à 4, le seuil. Le gravier du jardin cria sous ses pas. La grille tourna sous sa poussée. Dehors, il respira en s'enfonçant dans le noir de la berge, sous les arbres du quai, comme un fou. Il lui sembla marcher des siècles. Il longeait des rues désertes où les chiens aboyaient derrière les portes. L'odeur des massifs et des corbeilles passait en fragrance brusque au-dessus des murs des jardins. Il atteignait le faubourg, la campagne. Des prés mouillés de rosée, des bois qui sentaient le sapin et l'herbe défilaient à travers sa course. Quand il rentra dans Montargis, des lumières, çà et là, brillaient encore à quelques fenêtres. Minuit tinta, un clocher éloigné, puis de cadran en cadran, aux horloges proches. Il leva les yeux. Ah, il était devant la maison de Madame de La Faye. Derrière les volets de la chambre à coucher, au premier étage, une lampe veillait. Ah, il se souvint, oui, Carmen. Sa belle-sœur venait de rentrer du théâtre. Mais s'il entrait, montait, dans le désarroi où il flottait comme une épave, le ressac, l'idée l'attira. Une ombre derrière les volets allait et venait. Elle n'était pas couchée encore. Il causerait un moment, reprendrait pied avant de rentrer. Il lui sembla que l'orage dont ses tempes grondaient encore s'éloignait. Une lueur de calme et d'espoir là-haut brillait avec la lampe paisible. Un crime pour échapper au crime. Il tourna le bouton de la grille, pénétra dans le jardin. L'odeur des géraniums et des seringas embaumait l'entêtante. Il s'enfonça dans l'allée. Soudain, un bruit de pas, des voix. Cela venait du dehors. « Hein, quoi ?» Il reconnut le rire particulier de M. Tardoit, le procureur de la République, l'adieu joyeux de Mme de La Faye. Instinctivement, il fit un à gauche, se dissimula dans le noir de haut de fusain. Une forme blanche passait devant lui. La taille svelte et fine dans la robe de mousseline claire, le chignon châtain massé sur la nuque ronde, le cou pur dans le corsage échancré en carré. Il crut voir Luce, sa femme. L'instinct de meurtre déjà l'avait précipité. Ses doigts griffus frénétiquement serraient. Ils enfonçaient dans la peau douce, broyaient les muscles, tordaient les os. Il n'avait pas vu l'exsangue visage de sa belle-sœur. L'expression d'horreur et d'épouvante figée au trait de Madame de La Faye, les yeux vitreux d'où fuyait la vie. Il ne voyait qu'une masse molle qui s'affalait sans un cri sur le sable de l'allée. Alors, empoigné d'une panique éperdue, lui-même fonça, escaladant le mur dans un galop de bête à travers la nuit sans plus rien voir. « Enfin, mon cher monsieur Gérard, il faut cependant prendre une décision !» s'écria monsieur Tardoire. Renversé dans son fauteuil cané, il tapotait d'un long coup de papier d'ivoire, le dossier ouvert devant lui sur le bureau du poirier noirci. « Oh, il vous appartient de le faire, monsieur le procureur !» opina le substitut en inclinant la tête, comme s'il souscrivait d'avance à tous les partis que la haute sagesse de son chef pourrait prendre. Et intérieurement, il se réjouissait de n'être pas dans la peau de M. Tardoire. Mandat d'amener, ordre d'informer, une lourde responsabilité à prendre, dans l'occurrence. M. Tardoire, dont le visage exprimait la plus pénible incertitude, cessa brusquement de se balancer, et en voyant promener son coupe-papier au diable, il frappa violemment la table du poing. « Mais c'est terrible, voyons, mon cher ami, qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» M. Gérard se recueillit perplexe, puis à phrases entrecoupées, « Ben vraiment, je ne sais trop. Cette mort est tellement mystérieuse. Les charges qui pèsent sur le jardinier sont légères. Il se peut fort bien que nous fassions fausse route. » L'hypothèse du cheminot est, plus j'y pense, la seule vraisemblable. Quant au bruit singulier qui court sur M. Lortal, non, c'est impossible, c'est absurde, je n'y pourrais pas croire. Bon, en matière de criminologie, prononça M. Tardoire avec importance, il n'y a rien d'impossible. Il fut satisfait de cette formule, la retint pour un de ses prochains réquisitoires. Il la lancerait de la même voix affirmative et attristée. La glace, qui sur la cheminée de marbre noir dominait une pendule de bronze vert, Thémis, dressant d'un geste noble ses balances, lui renvoya sa silhouette grêle, son visage tourmenté et dur, aux maigres favoris poivre et sel taillés net. Cette image lui parut décorative, digne du magistrat distingué qu'il estimait d'être, d'un impartial et haut représentant de la société, de la loi. Une exclamation étonnée de M. Gérard le tirait de cette favorable constatation. « Oh, croyez-vous vraiment, monsieur le procureur ? Verriez-vous dans les reproches qu'on fait à M. Lortal autre chose que de misérables ragots de petite ville ?» Légèrement vexé, mais sans en rien laisser paraître, M. Tardoire hocha la tête. « Oh, sait-on jamais ? » murmura-t-il. Certes, il était au-dessus de toute considération personnelle. Il le croyait du moins fermement. Il eût été sans doute cruellement surpris et mortifié si un examen sincère de conscience avait pu l'amener à cet aveu que, malgré lui, les sentiments qu'il avait nourris pour Madame de la Faye et contre M. Lortal réagissaient sur son jugement. « Et quoi ?» reprit M. Gérard. « Vous ajouteriez foi à ces racontars qui dépeignent M. Lortal comme secrètement amoureux depuis des mois de sa belle-sœur. Vous vous pencheriez pour le crime passionnel ?»« Oh, je ne penche en rien, » dit sèchement M. Tardoire. « Je pèse, je réfléchis. » Non, non, l'idée que M. Lortal avait pu être distingué par la charmante veuve, ou qu'à tout le moins il l'avait poursuivi d'un offensant amour, cette idée ne pouvait en effet influer en rien sur les sentiments de M. le procureur de la République. Et cependant, malgré lui, M. Tardoire, dont l'assiduité près de Madame de La Faye était un des sujets de conversation de Montargis, même avec l'incroyable vélocité cancanière des petites villes, on donnait leur union comme résolue, prochaine. M. Tardoire aurait eu beau s'en défendre. Une involontaire hostilité le mettait en garde contre M. Lortal. Que pense la justice ? Il revoyait avec précision les péripéties de la nuit du crime. 4 jours de cela et pas plus avancé qu'à la première heure. Samedi, oui, samedi dernier, il venait de rentrer chez lui après une courte promenade à travers la ville déserte. Heure délicieuse. Le silence, les étoiles, l'ombre fraîche où passaient soudain des bouffées tièdes. Il s'était couché lentement en chantonnant des airs de Carmen. Le parfum de Madame de La Faye, son souvenir exaltant, l'enveloppait comme d'une présence. Il ne se séparait pas d'elle en s'endormant. Et patatras, un carillon l'arrachait de son rêve. Une femme de chambre essoufflée, affolée, appelait de la rue. Il s'était levé, rhabillé précipitamment, et tandis que son valet de chambre allait réveiller le substitut et les gendarmes, il courait aux côtés de cette fille bouleversée vers la maison qu'il venait de quitter tout à l'heure, joyeux après avoir baisé galamment la main de Berthe. De ces interrogations, chemin faisant, il ne pouvait tirer que ceci. La bonne de Madame de La Faye, inquiète de ne pas voir rentrer sa maîtresse, était descendue vers 1 heure du matin dans le jardin. Elle avait vu à terre une forme blanche. C'était Madame, étranglée, morte. Alors elle avait couru chez la sœur de Madame, réveiller Monsieur et Madame Lortal, qui était allée tout de suite voir, pendant qu'elle-même, sur leur ordre, était venue chercher Monsieur le procureur. Monsieur Tardoise, à 7 minutes, arrivait devant la grille. Un groupe sinistre, mal éclairé par une lanterne à feu rouge, se tenait au milieu de l'allée que barrait dans sa robe blanche le corps étendu de Madame de La Faye. Il était à la place même où il l'avait dû tonder. Échevelée, Madame Lortal était à genoux près du cadavre, soulevait la tête aux traits pincés d'une pâleur de cire. À la lueur sanglante du falot, M. Tardoise constatait avec une émotion douloureuse cette expression de surprise et d'épouvante, ce masque suprême que la mort venait de mettre au souriant, vivant visage. À cette inoubliable vision se mêlait, d'indissoluble sorte, le visage penché de M. Lortal, dont, en se relevant, le procureur avait remarqué l'absorption étrange. Le front ravagé, les yeux clos, M. Lortal semblait regarder en lui-même fuir un hallucinant spectacle. Ce n'était que le lendemain, reconstruisant dans son souvenir, détail par détail, l'ensemble de cette nuit mouvementée, que M. Tardoise remarquait, notait son impression. Sa visite, qui avait duré 2 heures, s'était envolée pour lui en 1 minute, dans la fièvre des constatations, les soins matériels de sa charge. Il assistait aux investigations de M. Gérard et du maréchal des logis de gendarmerie. L'emplacement du meurtre, la position du corps. M. et Mme Lortal, pendant ce temps, visitaient le rez-de-chaussée, s'assuraient qu'on n'avait rien volé. Eux absents, M. Tardoise retrouvait dans la main crispée de Madame de La Faye un bouton de corde grise, arraché évidemment du vêtement de l'assassin. On relevait aussi dans la plate-bande des géraniums, au pied des hauts fusains, l'empreinte d'un long et large pied, une chaussure aux semelles débordantes. M. Desfeuilles, prévenu de son côté, arrivait les yeux en larmes. M. Tardoise s'était remémoré ensuite le trouble du médecin lorsqu'après avoir examiné les ecchymoses et les éraflures du cou, il avait secoué la tête en soupirant. Et l'attitude du docteur envers M. Lortal. Il n'avait pas échangé un mot. Et à 2 reprises, M. Tardoise avait surpris le regard de M. Desfeuilles posé avec insistance sur le professeur qui se détournait comme avec gêne. Madame Lortal elle-même semblait en proie à une exaltation si fébrile que c'était à se demander si d'autres préoccupations que la stupeur et le chagrin ne la tourmentaient pas à cette minute. Impression d'ailleurs très vague, intuition confuse, qu'il avait pris corps dans l'esprit de M. Tardoise qu'après 3 jours de réflexion, hier seulement, quand, après l'enterrement, le commissaire de police lui fait part des bruits qui couraient, chuchotements d'abord mystérieux, bientôt explicites, insinuations peu à peu formulées en accusations. La nouvelle de l'assassinat était dans le calme de Montargis, tombée comme un aérolithe dans une eau stagnante. Le marais était bouleversé jusqu'en sa plus vaseuse profondeur. Toute la boue qui s'entasse sous la surface dormante d'une petite ville s'agitait éperdument remuée. On ne s'imagine pas ce qui se raconte et s'invente d'horreur sur les uns et sur les autres dans la tranquillité de ces vies provinciales. Le ramassis d'insanité qui se colporte à mi-voix avec bonhomie et sang-froid. Les grands potins d'une petite ville. Il avait suffi que M. Lortal, étranger, un drôle de mariage qu'on n'avait jamais compris et de caractère enfermé, il faut se méfier de ces natures-là, eût paru assidu auprès de sa belle-sœur pour qu'on en supposât épris. Et cela admis, les opinions divergeaient. Aux yeux de quelques-uns, il avait triomphé des scrupules de la jeune veuve, trompait sans remords Madame Lortal. Aux yeux des autres, au contraire, Madame de La Faye avait toujours repoussé les avances du séducteur. Dissidence qui n'empêchait point les mauvaises langues, envenimées par la fierté et la vie solitaire de Lortal, de tomber d'accord sur ce point. Ce vilain Rousseau, avec son teint de brique et ses yeux bizarres, qui ne vous regardait jamais en face, était bien capable d'avoir fait le coup. Et le motif, oh, folie érotique, disait ceci, rage de l'avoir pu triompher d'une résistance entêtée. Jalousie, disait cela, Madame de La Faye, songeant à se remarier. Ne l'avait-on pas vu se promener seul plus d'une fois avec M. Tardoir? Ainsi, autour des Lortal, la malignité publique grondait sans qu'ils s'en doutassent. Le docteur Desfeuilles, averti de ce déchaînement de calomnie, n'avait pas encore osé en avertir la malheureuse Madame Lortal. À peine avait-il pu échanger, depuis la nuit tragique, quelques mots avec elle, en les accompagnant jusqu'à leur porte, après le cimetière. Seul un échange de regards où parlaient leurs soupçons, leurs craintes réciproques avaient renoué et resserré entre eux le secret de la terrible confidence antérieure. Dans la petite ville surexcitée, racontards et griefs continuaient ainsi à s'enfler. L'émotion croissait, unanime, sans cependant que plus de trois personnes fussent prêtes de toucher la réalité tragique. M. Tardoir, persuadé du crime sans en démêler le mobile, le docteur et Madame Lortal soupçonnant le criminel à cause du caractère même du meurtre. Une circonstance pourtant rassurait Madame Lortal. Son mari, qui s'était endormi à ses côtés avant elle, s'était en même temps qu'elle réveillé au cri de la bonne appartement effroyable nouvelle. M. Gérard, respectant la rêverie de son chef, attendait que M. Tardoir résumât dans quelques paroles définitives le fruit de ses réflexions. Le procureur dit enfin, comme à regret, « Si la journée ne nous apporte rien de décisif, je crois comme vous qu'il faudra se ranger à l'hypothèse du cheminot, classer l'affaire. On ne peut en effet, sur des ragots, des racontards, risquer de déshonorer un homme que rien de précis jusqu'ici l'accuse, que tout au contraire semble mettre hors de cause. Et quant au jardinier envoyé sur la piste auquel nous nous sommes égarés d'abord, oh non, je renonce. L'empreinte relevée sur la plate-bande ne correspond pas. Son alibi d'ailleurs est certain. M. Gérard approuva. Oui, le cheminot explique tout. Un coup discret, frappé à la porte, leur fit tourner la tête. Entrez! Dit M. Tardoir. Le greffier s'avança en trottinant. « Monsieur le procureur, c'est M. Lardemès, le notaire en retraite, qui demande à vous voir à propos de l'assassinat. » Les deux magistrats se regardèrent. M. Lardemès, vieil homme considéré dont ils estimaient la situation, le caractère et l'âge, Apporterait-il du nouveau ? Introduisez-le sans retard, dit M. Tardoy. Légèrement voûté, la face grise, ridée comme une pomme de rainette, M. Lardemès parut, inclina son chef branlant sous les cheveux blancs. Il prit, sans mot dire, le fauteuil qu'on lui désignait, toussa, puis s'étant recueilli, « Monsieur le procureur, ma conscience me fait un devoir de venir vous donner le renseignement suivant. C'est au sujet de la triste affaire de Madame de La Faye. Samedi soir, étouffant d'asthme et ne pouvant dormir, je m'étais mis à ma fenêtre lorsqu'à 20:00, oh, je suis sûr de l'heure quand je venais de la constater, j'ai aperçu du bout de la rue un homme qui arrivait en courant. Vous savez que ma maison et celle de M. Lortal se touchent. Quelle n'a pas été ma stupeur en reconnaissant dans ce promeneur attardé et pressé mon voisin en personne. Oui, il était tête nue, vêtu d'un complet d'alpaga gris. Il avait l'air extrêmement ému, comme hors de lui. Je n'en pouvais croire mes yeux et ne les aurais effectivement point crus si M. Lortal s'était arrêté devant sa porte et, précautionneusement, après avoir regardé à droite et à gauche, n'avait ouvert sans bruit et refermé de même après être entré à pas de loup. J'ai hésité à faire cette disposition, malgré les bruits fâcheux qui s'élèvent en ce moment, et peut-être même ne l'eusse-je pas fait, si mon observation avait été corroborée par celle d'un de mes bons amis, M. Dufrévieux, que vous connaissez. Oh, vous pouvez l'interroger, je suis sûr qu'il ne me démentira pas. Il m'a confié ce matin, après avoir croisé samedi à 00:15 à 100 mètres de la maison de Madame de La Faye, M. Lortal, qui marchait en gesticulant. Bon, si grave que soient ces assertions, je suis prêt, bien entendu, à les réitérer et signer devant vous pour en témoigner en justice. « C'est bien, monsieur Lardemès, dit après un silence monsieur Tardoy. Je vous remercie. Je vous prierai de renouveler ces déclarations le moment venu. À votre service, monsieur le procureur. » Et reconduit par le substitut, le vieillard saluait, s'éloignait, courbé sur sa canne. Monsieur d'Artois, en proie à une vive agitation, feuilleta rapidement le dossier, y prit la pièce où l'empreinte du pas était reproduite d'un contour net au crayon bleu, et roula dans une enveloppe le bouton de corde grise. « Tenez, Gérard, dit-il en refermant le dossier, reprenez cela en attendant. » Il tâta dans la poche de son veston le fac-similé soigneusement plié et dans celle de son gilet le bouton à conviction. « Je reviens dans 1 heure, ajouta-t-il, j'en aurai le cœur net. » Avec la vivacité d'un jeune homme, son chapeau, sa canne, il claquait la porte où il était loin déjà. 5 minutes plus tard, il sonnait à la porte des Lortal. « Monsieur est-il là ?»« Oh, monsieur est absent, monsieur le procureur, » dit Mariette avec respect. « Mais madame, demandez-lui, s'il vous plaît, si elle peut me recevoir, je vous prie. » Mariette le faisait entrer au petit salon. Madame Lortal, au bout d'un instant, parut. Elle était blême. « Oh, vous excuserez ma démarche, madame, » dit-il avec dignité, mais netteté, monsieur Tardoy. « Oh, ce n'est pas l'ami, c'est le magistrat qui remplit auprès de vous un triste devoir. Des bruits, que je veux croire, erronés, circulent, vous savez. »«
Oui, je sais, » dit-elle en portant la main à sa poitrine, « mais c'est une infamie. Le docteur Desfeuilles m'a mise au courant ce matin. »
« Des indices d'une extrême gravité, » reprit M. Tardoy, après une légère hésitation, « me contraignent, madame, à vous poser quelques questions.
Je vous prie d'y répondre avec une absolue franchise. Reconnaissez-vous ce bouton? Mais monsieur, monsieur Lortal possède un vêtement d'alpagris. Voulez-vous me permettre de l'examiner? Mais cette investigation est hélas nécessaire, madame. Le mieux, si vous le voulez bien, serait de me conduire dans la chambre de monsieur Lortal, où discrètement je comparerais. Atterré, elle le précédait, le menait au premier étage, ouvrait docilement les armoires. Les habits étaient pendus à des porte-manteaux mobiles le long d'une tringle. Les chaussures s'alignaient en bas, sur une planche étroite. « Ah ah !» fit M. Tardoua.